Bonjour et bienvenue dans La Terre à boire. Je suis Alessandra Fotorino, autrice, agent et directrice de l'école du vin du 22 à Montreuil. Je suis très heureuse d'intégrer l'équipe de La Terre à boire. Vous devez vous dire, mais qui est cette voix que l'on ne connaît pas? En effet, c'est ma toute première émission. Soyez indulgents, je me lance. Merci à Romain, Laurent, Valérie et Patrice de m'accueillir parmi vous. Comme toute l'équipe, je suis passionnée de boissons fermentées et autres breuvages originaux. Alors, parlons, goûtons et débattons. Et pour m'accompagner ce soir, Patrice est là. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
Et Romain, qui me laisse prendre un peu de place sous son regard bienveillant. Bonsoir Romain.
Bonsoir Alessandra. Et c'est pas tout à fait vrai, on t'a déjà entendu dans La Terre à boire.
C'est pas faux.
Tu étais invité.
Oui, j'étais de l'autre côté.
Et aujourd'hui, je suis très heureux que tu prennes la présentation de l'émission. Voilà.
Merci beaucoup. Moi aussi, très heureuse, bien qu'un petit peu flippée.
Je suis ravie. Mais tout va bien se passer.
Mais tout va bien se passer, évidemment. Alors, Valérie et Laurent n'étaient pas dispo, mais ils seront de retour très bientôt.
Ils sont malades au fond de leur lit et on les embrasse.
On les embrasse. Est-ce que ça va, messieurs? Est-ce que vous êtes prêts à défricher ensemble le thème du soir et goûter quelques vins?
Ouais, bah c'est costaud le thème du soir. Hein. Donc, goûter des vins, oui. Comprendre le thème, moi, ça m'intéresse.
À fond.
Ok, Patrice, à fond.
Alors, a bossé, comme d'hab.
Aujourd'hui, un sujet hautement passionnant et sensible qui arrive sur toutes les lèvres, au propre comme au figuré. Les cépages hybrides. On en parle beaucoup et on va probablement en parler de plus en plus. Petit préambule. Il y a quelques années, j'embarquais mon meilleur ami dans ma Creuse maternelle et, en tombant sur le journal La Montagne, je tombe sur un rêve éveillé, un vigneron creusois qui fait parler de lui, Geoffrey Étienne. Ni une ni deux, je l'appelle. Du vin par chez moi, sapristi. Oui, j'utilise parfois des mots démodés. Rendez-vous est pris le lendemain et nous passons la journée ensemble. Geoffrey, c'est un amoureux du vin, curieux, passionné, toujours enjoué, qui nous raconte sa vision du vin sur ce terroir creusois, avec des cépages pas tout à fait communs, un terroir souvent manqué ou mis de côté. Geoffrey est de ceux qui repoussent les limites, qui osent et qui font. Alors, tout naturellement, pour parler de cépages hybrides, j'ai pensé qu'il était la bonne personne à appeler. Bonjour Geoffrey Étienne.
Bonjour Alessandra Fotorino, saperlipopette.
C'est un thème expression surannée.
Voilà,
c'est ça.
Je sens qu'on va embarquer dans les thèmes désuets ce soir. Alors, en même temps, un peu comme ces cépages qui finalement ne sont pas si récents. Geoffrey, tu es vigneron à Boussac-Bourg et tu es l'un des fondateurs également avec Valentin Morel, Lilian Baucher de l'association Vitis Batardus Liberata qui promeut l'hybridation. Alors avant de parler hybride, Geoffrey, est-ce que tu peux nous dire comment tu es passé de l'exploitation familiale de la myrtille au raisin ?
Waouh !
Elle va fort en direct.
D'entrée de jeu. Bonsoir à tous, bonsoir Paris. Ici la Creuse. Alors, comment on passe de la myrtille au vin ? Bah, par une vieille passion, le vin. Et puis, est-ce que je suis capable de le faire ? Réchauffement climatique, j'ai des terres qui semblent pouvoir l'accepter. Je me documente pendant une dizaine d'années. Je cherche quoi planter, comment... Qu'est-ce que ça peut faire comme type de vin? Comment vinifier? Je me suis orienté d'entrée de jeu vers des vinifications nature, ce qui est la suite logique de l'utilisation de cépages hybrides ou de cépages qui ne reçoivent pas ou très très peu de traitement. Voilà, bon, donc c'est avant tout de la curiosité et puis aussi l'envie de faire quelque chose, de faire des vins différents. Je pense que quand on passe au vin nature, si on est passé par les vins conventionnels avant, c'est parce qu'on s'est un peu ennuyé. Et qu'on a envie de goûter autre chose. Producteur de fruits et de myrtilles pendant 30 ans, la suite logique, c'est de faire des vins de fruits. Et le raisin, c'est un très beau fruit. Et les différentes variétés qu'on a, les cépages qu'on a, sont des fruits. Léa, on a goûté plein de vins cet après-midi. On a goûté des vins de fruits, en fait, des jus de fruits fermentés. Hein, bon, voilà, c'est ça l'idée, c'est de mettre en bouteille des fruits.
Super. Merci beaucoup pour ta réponse. Je crois que tu as réfléchi pendant plusieurs années pour choisir un peu tes raisins.
Ah oui, parce que pour ces variétés-là, faut les trouver.
Elles, oui.
On ne les trouve pas forcément dans toutes les pépinières. Il y en a plein qu'on ne trouve pas du tout en pépinière. Il faut trouver les gens qui en ont et surtout goûter des vins avec ces variétés-là. Donc des gens qui vinifient plutôt bien et qu'est-ce que ça peut donner? Quel est le potentiel de ces variétés? Ça, c'est un challenge, oui.
Alors, En effet, c'est un challenge dont tu vas pouvoir nous parler dans quelques instants. Du coup, je me tourne rapidement vers Patrice. Patrice, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'on appelle un cépage hybride pour que ce soit clair pour tout le monde ?
Alors, un cépage hybride, c'est un croisement entre deux types de vitis, la vitis européenne, qu'on appelle vinifera, et puis plus souvent, c'est vitis américaine, donc rupestris ou riparia ou lambrusca, et très rarement l'asiatique, qui est amorensis. Alors, le cépage qu'il ne faut pas oublier, c'est que les cépages qu'on a, c'est... tous les cépages qu'on connaît, c'est plutôt des chimères, hein, c'est-à-dire des cépages qui sont mis sur des pieds américains pour lutter contre le
phylloxéra.
Donc les cépages hybrides, en fait, ils ont une histoire très ancienne. Ça a commencé aux États-Unis il y a plus de 200 ans, parce que les Américains, ils voulaient trouver des spécificités propres à leur domaine. C'est les premiers cépages qu'on trouve, en gros, avant le phylloxéra. Et puis après, il y a eu d'autres recherches qui ont été menées pour développer ces variétés-là. Le principe du cépage hybride, en fait, c'est de récupérer, alors c'est en train tout petit peu dans la technique, mais c'est ce qu'on appelle l'introgression, c'est-à-dire de trouver deux cépages qui peuvent se reproduire ensemble, mais qui intègrent des gènes résistants dans leur génome. Nous, les humains, on est des hybrides, hein, puisqu'on a 2% de néandertal. Et ces 2% de néandertal, c'est ce qui nous permet de résister à la plupart des virus. Si on était 100% cromagnon, on serait beaucoup plus malade que ce qu'on est aujourd'hui. Donc nous sommes un hybride.
100% sapiens, tu veux dire.
Ouais,
parce que Cro-Magnon,
ouais, sapiens,
on
sapiens,
a laissé de sapiens, côté en route.
Exactement. Enfin, Cro-Magnon est un sapiens, mais voilà, 100% sapiens. Et la fraise est un, oui, comment on consomme, est un hybride entre deux variétés, une variété de Virginie, une variété chilienne. Donc les hybrides, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existe structurellement dans la nature depuis des années.
Même les fougères, toutes ces choses-là sont des hybrides.
Exactement. Donc l'idée, c'est de trouver des variétés qui permettent petit à petit, par rapprochement, parce que le cépage hybride, sauf à faire des OGM, ça sera un autre sujet, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est des sélections de raisins par croisement de deux types de vitis. L'idée, c'est de chercher les parties résistantes, résistantes notamment au froid, hein, c'est ce qui est cherché dans les gènes qui sont apportés, et beaucoup aussi aux maladies fongiques, Oïdium et Mildiou. Voilà, donc c'est des choses qui sont développées depuis des années, on redéveloppera. Mais voilà, c'est le mariage entre deux vitis pour récupérer les gènes résistants.
Super, merci. Merci beaucoup, Patrice. Geoffrey, est-ce que tu as des choses à préciser, justement, par rapport à cela ?
Non, c'est très juste. Début du 19e, quand même, hein, les premières hybridations, les croisements, le Clinton, le Concorde, l'Abrusca, Riparia, ouais, ça fait des choses magnifiques. Je ne sais pas si vous en avez déjà goûté.
Alors, moi, oui, évidemment, et avec toi, notamment.
Ouais.
Non, moi j'avoue, non. On a goûté quelques trucs avec l'ami Bertrand qui, comme toi, a planté qui est un vigneron, néo-vigneron qui a planté des hybrides. Ça a fait goûter du Sauvigné.
Muscaris. Voltis.
Voilà. On avait fait une émission un peu autour de ce thème.
En fait, les cépages hybrides ont un peu une mauvaise image. C'est un peu comme le Beaujolais nouveau parce que, ils développaient des notes foxées, comme on dit.
Geoffrey aura une histoire sur le foxé.
Ouais. Attention.
Je parle de l'image.
Ça serait intéressant que tu nous parles du côté foxé.
Mais ça développe quand même. Attendez, je sors mes notes de l'antranilate de méthyle. Donc c'est ça qui dote la note foxée. Et notamment les six hybrides originaux, hein, qui datent du 19e, qui sont le Noah, l'Othello, Jacques, Clinton, Isabelle et Herbemont, et qui ont été en fait proscrits sous couvert, en fait, de notre foxé, mais parce qu'il y avait surproduction. Ce qu'on ne dit pas assez, et ce qu'on ne sait pas assez, c'est qu'un tiers du vignoble français, au milieu des années 50, donc c'est-à-dire 400 000 hectares, sur 1,2 million à l'époque, on a 800 000 hectares aujourd'hui, un tiers était des cépages hybrides. Donc c'est quand même considérable, on pense que c'est anecdotique. Donc c'était une grande partie du paysage post-phylloxérique dans la France des années 50-60.
Geoffrey, est-ce que tu es avec nous ?
Je suis avec vous, pas mieux. On a un vigneron, ami vigneron, qui a fait une thèse complète. Jean-Benoît Goulabert, qui est installé dans le Lozère, et qui a fait une thèse sur les cépages hybrides et la vinification, et qui a parlé notamment de ce caractère naturellement foxé de certains vins issus de cépages. Et j'ai sous les yeux sa thèse par rapport à l'entranilate de
Mithil. Et je vais vous la lire.
En entier.
Je vais vous la lire. Elle ne fait que 429 pages.
Oh, bah c'est non, parfait, non, on a non, le
non,
temps.
Non, voilà. Non, Vitis labrusca, effectivement, par rapport à l'entranilate de Mithil, ce goût framboisé, on a plus de 3000 nanogrammes par litre, alors que dans Vitis vinifera, on est inférieur à 0,3 nanogrammes. Donc on a une perception de ce framboisé dans les Vitis labrusca qui est très importante. Ça fait des vins extrêmement agréables. Alors par rapport à leur interdiction, quoi dire, 24 décembre 1934, la date de l'interdiction. Oui. Je trouve qu'à côté de ça, un 49-3, c'est de la roupie de Sansonnet. Vous voyez ce que je veux dire ? 24 décembre.
À quelle heure ? Parce que c'est important.
À l'heure de la dinde. Il faut le faire quand même. Et là, on interdit 6 cépages que tu as cités, au prétexte que ça faisait des mauvais vins qui rendaient fous et responsables de la surproduction. Aujourd'hui, ces cépages, ils sont autorisés partout dans le monde.
Sauf en France.
Sauf en France et en Italie, je crois. Mais ils sont autorisés par l'Europe. Nos collègues autrichiens, ils font, comment ça s'appelle, le Hüdler ? Ils font un assemblage dedans. Je crois qu'il y a de l'Isabelle, du Clinton, du Noah, et je crois même qu'ils ont une IGP. Vous voyez le lobby autrichien à Bruxelles, comment ça marche.
Oui.
Bon, j'espère que nous, on va arriver quand même à libérer, à avancer un petit peu plus loin et à libérer ces cépages-là. Et de toute façon, on n'a pas bien le choix par rapport à toutes les maladies qu'on vit avec le vinifera. Hein. Soit on récupère de cette résistance génétique ancestrale, soit c'est via les New Breeding Technologies où on va transporter des gènes d'une variété à l'autre. Mais bon, là, on est vraiment dans un autre domaine, quoi.
Il y a quand même quelques cépages hybrides qui sont autorisés en France.
Oui,
bien sûr.
Oui, il y en a.
Artaban, Vidoc, etc. Enfin,
ceux-là viennent de l'INRAE, je crois.
Oui, ceux qui ont développé par l'INRAE.
Oui.
Mais même l'Auberlin, le Léon Millau.
Le Léon Millau aussi autorisé. Oui.
Le Rayon d'Or, le Castel, j'en ai plein sous les yeux dans la table de ma cuisine. Ils sont tous autorisés. Ils sont dans la liste A1 validée par France Agrimaire. On a ces cépages-là, mais il y en a plein d'autres.
Voilà, oui, il y en a plein d'autres. Et puis, il y a les 6 fameux interdits qu'on ne peut pas produire, ni faire pousser, ni produire.
On peut, normalement. On peut, mais alors sous couvert d'un truc associatif ou en consommation familiale. Enfin, il y a une espèce de, comment on appelle ça, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a le droit, on n'a pas le droit, on a le droit de s'empoisonner en famille ou avec ses amis, mais on n'a pas le droit d'en vendre.
Enfin, pas professionnellement.
C'est le faux cultisme, hein. C'est l'hypocrisie, c'est un truc très hypocrite, je trouve. C'est mon avis personnel.
Alors, au niveau des vins qui contiennent des cépages hybrides, Romain et Patrice, est-ce que vous pensez que c'est des vins qui ont aujourd'hui leur place dans nos assortiments, cavistes, épiceries, restaurants ?
Alors, moi, je ne pense pas avoir déjà rencontré un caviste qui m'ait parlé de cépages hybrides.
Ok.
J'achète toujours mes vins chez le caviste, j'aime bien discuter avec lui, et jamais c'est venu dans la conversation. Alors, moi, je n'ai pas forcément amené le sujet, mais je n'ai jamais vu une dégustation de cépages hybrides. Je pense que c'est complètement... Enfin, ça passe sous le radar, cette histoire. On en parle, nous, parce que c'est le sujet qui nous intéresse. Je ne suis même pas sûr d'avoir vu beaucoup de dossiers ou d'articles dans la presse spécialisée. J'ai l'impression que voilà, c'est l'inconnu, en fait.
Oui, non, je n'ai pas l'occasion de boire des cépages hybrides, à part la vendange que j'ai pu faire, effectivement, chez Bertrand, puisque lui a planté des cépages hybrides dans la Somme, donc sous vignée fleuriste. Donc c'était ma première vendange, j'étais de cépages hybrides, donc c'est quand même
excellent.
Original, voilà.
Mais
donc ça existe. Après, il y en a quand même du cépage hybride aussi dans l'Armagnac, puisque le Baco 22, on en boit quand on boit de l'Armagnac. Hein,
issu du Noah.
Ouais, il est autorisé. Mais non, c'est pas quelque chose qui a, par définition, pignon sur rue. Alors après, je pense qu'on en boit parfois sans le savoir, puisque les vignerons aussi ont un peu, alors je dirais pas honte, mais ont des problèmes pour l'afficher de manière ouverte.
Tout à fait.
Et quand j'en ai bu, c'était plutôt sous la forme, je dirais, austro-germanique. C'est-à-dire que c'est écrit sur la bouteille, hein, c'est écrit sous vigné, hein, c'est un peu à la mode australienne ou américaine en termes de présentation marketing. Donc j'en ai bu un petit peu à cette occasion, mais ça reste quelque chose d'assez confidentiel, en tout cas marketingement parlant, de ce que je peux constater.
Puis on en a bu un ensemble, si je me souviens bien.
Oui, quand on avait préparé cette émission.
Exactement.
La première fois.
C'était un blanc de chez Valentin Morel, je ne dis pas de bêtises.
Exactement.
Chez 228 litres, et c'était très intéressant. Je vous propose qu'on passe à la dégustation d'un vin de chez toi, Geoffrey, qu'on déguste un blanc que tu appelles donc la numéro 8. Donc sur tes bouteilles, c'est très clair, il y a marqué vin nu. Et les ingrédients, c'est du raisin, de l'amour et du temps. Et donc, nous, on va essayer de prendre le train, de savoir ce que tu as mis comme raisin.
J'en profite pour poser une question. Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu veux dire en parlant de vin nu ?
Alors, vin nu, c'est un... J'ai appelé mes vins nus après avoir contacté Alice Fehring, que vous devez connaître pour ses nombreux ouvrages liés au vin nature, et notamment les vins géorgiens. Et j'ai contacté Alice Fehring à mon retour de Géorgie. Et je lui ai demandé l'autorisation d'appeler mes vins comme ça, Necked Wine, Tout simplement parce que dans la bouteille, il n'y a que du jus de raisin fermenté. J'ai jamais utilisé de sulfite jusque-là. Je ne dis pas que je n'en serais pas obligé d'en utiliser. Mais pour l'instant, il n'y a rien dans mes bouteilles autre que du jus de raisin. Voilà, c'est pour ça. D'où le mot vin nu.
Ça veut dire que l'expression vin nu te semble plus... Enfin, tu t'appropries plus cette expression-là que vin nature, par exemple ?
On est sur deux choses différentes. Vin nature, on a...
Je fais exprès hein, pour que tu t'expliques. Parce que nature, ça recouvre tellement de choses. Et nu, je trouve que c'est une expression intéressante.
Je fais partie du syndicat des vins méthodes naturelles, qui a un cahier des charges très clair. Ouais. Vous le connaissez, j'imagine.
Tout à fait.
Bon, hein, voilà, on a un cahier des charges. Voilà. Bon, vin nu, moi, c'est le nom de mes vins à moi. Hein, On m'a dit que d'autres vignerons avaient appelé des cuvées vins nus aussi. Bon, je ne les ai pas goûtées encore. Bon, voilà, ça c'est propre à mes vins.
Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on boit ?
Alors, on est en train de goûter, Geoffrey, ta numéro 8.
Voilà, on y va, Léa, pareil. Alors,
c'est pas, vous aussi ? Eh ben, c'est parfait, ouais. On est en dégustation simultanée. Bah. Alors, voilà. qu'est-ce qu'on peut noter sur cette numéro 8 ? Alors nous, du coup, on l'a tous les trois sous les yeux. Il y a un jaune qui est assez profond, assez intense.
Un quoi hein
un jaune, une couleur jaune qui est plutôt intense, plutôt profonde.
Oh, qui tombe.
Alessandra, tu goûtes du 8 ou du 6-9 ?
Là, on est au 8.
Non, c'est le 6-9.
Ah pardon, 6-9. On est au 6-9.
Le 6-9.
Voilà, on est au 6-9.
Je l'ai piégé parce que je l'ai sorti du frigo et je l'ai remis au frigo, elle était au frais.
Non.
C'est du 6-9.
C'est sa première, on lui réserve des petites surprises comme ça.
C'est on a commencé avant de t'appeler.
Non, mais c'est presque un vin de macération en couleur. Hein, on va retrouver.
Complètement.
Je pense que.
C'était orange.
Il y a le vin du macéré avec ses peaux un certain temps.
C'est ça, c'est ça. Ça, c'est l'expérience géorgienne. Oui, ils sont tous des vins de macération et des courtes macérations. Non, des courtes macérations, pas plus de 10 jours. Hein.
Alors, au niveau des cépages, donc on est entre autres sur du Sauvignon gris et sur du Muscaris. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces cépages ?
Alors déjà, je les ai découverts chez Vincent et François Pugibet, vignerons au nord de Béziers, le domaine de la Colombette, qui sont des vignerons importants en taille, qui ont une expérience énorme de ces cépages hybrides modernes, qu'on appelle les piwi, qui est la contraction d'un mot allemand qui veut dire cépage résistant aux maladies.
Pils Wunderstandisch fähig.
Oh, bravo. J'ai voulu essayer, mais je
ne me suis
pas lancé.
Ça veut dire vigne résistant aux maladies cryptogamiques.
Bien sûr, tout simplement.
C'est ça. Alors, Sauvignon gris, Alessandra, on a révisé hier soir, c'est un...
Avant minuit, oui.
Avant minuit, c'est un descendant de...
Brunner.
De Cabernet Sauvignon et de Brunner. Cabernet Sauvignon, donc on est sur un vinifera, et le Brunner, Alessandra, on est sur un hybride de...
Alors, sur le Brunner, on avait plusieurs origines, il y avait notamment du vinifera, il y avait du riparia, il y avait de l'Aeslavelis.
Estivalis.
Voilà, Estivalis, je le prononce, et je crois qu'il y avait un peu de la brusca aussi, on avait 4 vitis.
Voilà. Alors, pour le cultiver et l'observer, c'est un cépage qui est extrêmement résistant aux maladies, très intéressant au niveau aromatique, qui a une peau très épaisse, qui a une très belle couleur mauve. Chez moi, en Creuse, il est un peu tardif, mais c'est très bien. Dans le reste de la France, il sera parfait. Je pense que c'est un cépage qui a énormément, énormément d'avenir en France. Et puis, alors, des années comme 21, années où il y avait énormément de mildiou, etc., moi, je n'ai jamais rien vu. 2023, il est passé au travers de tout, sans aucun traitement. Bon, voilà. Et puis alors le 9, donc ça c'était chez moi, ça, je l'appelle le 6, et le 9 c'est le Muscaris. Le Muscaris c'est un descendant de Muscat petit grain et de je ne sais pas qui, mystère.
Du coup ça fait un vin qui est à moitié blanc de noir en fait, puisque le Sauvignon est plutôt un cépage
plutôt
rouge.
Mauve.
Plutôt un cépage rouge.
Alors il est mauve à jus très très blanc, ouais. Hein, très très blanc, et non on le classe dans les raisins blancs quand même, effectivement il est mauve.
Ouais. Quand je l'ai cueilli, ça ressemble quand même plus à un cépage rouge. Hein.
Ok.
Mais bon, effectivement, d'accord.
Il est gris, c'est pour ça qu'il s'appelle.
C'est ça, exactement, comme Michael Jackson, enfin bon.
C'est ça.
C'est une blague de boomer.
Ouais. Bah en même temps, on est dans le thème, hein. On l'a dit dès le départ. Est-ce qu'il y a un élevage particulier ? Qu'est-ce que tu cherchais à mettre en avant sur ce vin, en termes d'aromatique ?
Là, vous goûtez du 2021, ouais. Il me semble. Alors 2021, l'année froide et humide, chez nous en Creuse, j'ai fini les vendanges, pas sur ces cépages-là, mais par exemple sur les rayons d'or, j'ai fini mes vendanges fin novembre. Donc on a vendangé avec des tout petits degrés, énormément d'acidité, comme dans beaucoup de coins en France. C'était quoi ta question, Alessandra? Qu'est-ce que je veux faire?
L'aromatique que tu cherchais, parce que tu vois là, nous on a, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai un petit goût de noix, quelque chose qui arrive, il y a une grosse acidité, puis après un petit côté mielé, puis de noix qui arrive en finale.
Il y a un côté oxydatif.
Exactement.
Qui rappelle un peu des vins jaunes.
Oui, c'est tout à fait ça.
Il y a un petit côté. On n'est pas dans le Jura, pourtant on est en Creuse.
Attendez, vous êtes sur un 22 ou sur un 21?
21 normalement. Oui, 21.
Tu l'as sur le numéro de l'eau, hein?
Oui. Alors attends. On va vérifier tout de suite les dires.
Le 22, c'était une cuvée volontairement oxydative.
Ah, alors attends, on va bien vérifier. Il faut juste que tu nous dises où est bien noté.
Sur le côté droit, l'eau 69-21 ou 22?
Alors, sur le côté droit, hop, c'est 22. Tout à fait. C'est
22. Alors là, tu es carrément sur un oxydatif. Je pensais que je t'avais envoyé un 21, désolé.
C'est très intéressant aussi. Ça nous va très bien. Donc, on est sur un oxydatif.
Alors, c'est un 22, c'est pas du tout un 21, j'enlève tout ce que j'ai dit, il fait 14 degrés,
oui.
Comme quoi en Creuse, on peut faire des vins qui ont du sucre, avec du, enfin, qui voient, sont des raisins qui ont vu le soleil. Et là, c'est un élevage oxydatif complètement, c'est vraiment une création là, c'est en cuve inox, donc avec une ouverture de chapeau une fois par semaine, renouvellement de l'air, et l'idée c'est de voir comment ça se comporte, ces hybrides avec l'oxydation. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 2 hectos, j'en ai presque plus. Et je trouve ça très, très amusant.
Ouais,
vous en pensez quoi?
Bah, c'est super intéressant. Moi, j'ai envie de prendre un vieux comté à côté.
À midi, on l'a goûté avec une tête de moine, avec Léa. Et ça l'a fait, oui. Ouais, ça l'a fait bien, ça l'a bien fait.
Patrice, Romain, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, ça m'évoque, en termes d'aromatique, on est vraiment sur les vins du Jura. On est vraiment, la noix, là, plus ça va, plus j'ai de la noix. Là. Donc c'est sûr que sur des fromages... ça va très très bien passer. Alors après, il y a beaucoup d'aromatiques, il y a assez peu de longueur. On est vraiment sur un vin immédiat de contact, donc je ne suis pas sûr que ça se garde très 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 longtemps, mais quoique, il faut voir l'acidité, il faut voir comment ça évolue dans le temps. Voilà, donc on est sur un vin immédiat, beaucoup de gourmandise, il y a effectivement, c'est assez bien équilibré, c'est riche en bouche, mais pas trop riche, il y a de la fraîcheur. Et voilà, moi j'ai vraiment ce côté oxydatif, noix, aromatique, fruits un peu mûrs, fruits blancs, assez mûrs quand même. Voilà, donc c'est intéressant, mais je ne le garderai pas trop longtemps, a priori.
Très minéral aussi, hein, c'est ce qu'on trouve.
Hein. Oui, il y a une tension un peu saline qui se termine.
C'est salin. Ouais, ça salive, ça fait saliver, ouais. On retrouve un peu ça dans la plupart de mes blancs ici. Hein.
Ouais. Alors justement, ouais. Romain montrait un petit peu la tête de la bouteille, donc il faut savoir que Geoffrey, pendant longtemps, a fait des jus de myrtille. Donc, les bouteilles...
Tu recycles tes bouteilles.
Voilà.
Non.
Non, mais en fait, il n'y a pas de bouchon en liège,
c'est
je vous le dis.
C'est pas un bouchon en liège, c'est les bouchons articulés avec un...
Moi, je trouve comme une limonade.
Comme les cidres. Hein. C'est typiquement une bouteille de cidre.
Mais souvent, les cidres, c'est un bouchon de champagne. Là, c'est vraiment...
Le cidre artisanal, on est comme ça.
Jus de fruits avec ce... Je ne sais pas comment il s'appelle, cette articulation en alu, là, qui fait pivoter.
Le bouchon mécanique.
Bouchon mécanique.
Voilà. Il fait ça, comme ça. Voilà. Avec une tête porcelaine et voilà. Alors pourquoi quand j'ai mis en bouteille mes premières cuvées, c'était les vendanges 2018. Dans les blancs, j'avais encore un petit peu de sucre résiduel, mes fermentations n'étaient pas terminées, c'était pas accompli. Et j'ai commencé à embouteiller sous Liège, et j'en ai pas embouteillé beaucoup, j'ai fait un test et j'ai eu des reprises de fermentation et très vite je me suis dit que je courais à la catastrophe. Et j'avais encore des bouteilles à fermeture mécanique pour le nectar de myrtille. J'ai tout de suite conditionné mes blancs à l'intérieur de ces bouteilles-là, comme une solution de secours. Et puis, ça permet de voir la couleur du... J'ai les cuvées 6 de 2023, là, sous les yeux. La cuvée 4, on a des vins avec une couleur orange ambrée magnifique. Donc, il y a un effet visuel, ça, j'aime beaucoup. Et puis, on est sur un vin nu, la bouteille, on est vraiment au contact du vin, rien que déjà par la vue, on voit ce qui se passe.
Super, écoute, merci pour ces informations. On va continuer tranquillement en allant vers le deuxième vin que tu as produit. Et pendant ce temps-là, je voudrais te demander, donc, Moi, j'ai eu la chance de pouvoir y assister. Donc, tu es à l'initiative avec le vigneron jurassien Valentin Morel, Lilian Baucher en Beaujolais et d'autres vignerons comme Didier Grappe de l'association Vitis Batardus Liberata. J'ai goûté des choses vraiment très intéressantes, d'autres plus originales. Quel est le but de cette association que vous souhaitez promouvoir? Comment vous souhaitez mettre en avant les hybrides et dans quel cadre?
Je crois que Valentin l'a pas mal expliqué dans son livre, Un autre vin.
Un autre vin.
Ouais. Alors, moi, je n'ai jamais cultivé que des cépages hybrides. J'ai jamais eu de vinifera chez moi. Valentin, si on peut faire un raccourci, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas, là, une des grandes conclusions de son livre, quand ça s'adresse à des vignerons, c'est qu'avec 30% de cépages hybrides dans un vignoble, on peut, a priori, passer au travers des aléas climatiques et s'en sortir à peu près. Plus au niveau aromatique, il y a des intérêts, etc. Le but de l'association, à mes yeux, bon, je crois qu'on est à peu près tous d'accord dans l'association, hein, c'est libérer ces cépages. On a des listes aujourd'hui qui vous obligent à planter, même en vin de France, hein, c'est-à-dire hors appellation. On a une liste, une guideline qui vous oblige à choisir forcément des cépages inscrits. Pour inscrire un cépage nouveau ou oublié, c'est vraiment tout un processus de validation qui est assez long. Et il y a beaucoup de cépages qui sont rejetés et qui nous semblent quand même très, très intéressants. Un des buts de l'association, c'est aussi de tester ces cépages anciens, ces cépages hybrides dans les futures régions viticoles, un peu plus septentrionales, le Nord, la Bretagne, la Normandie, l'Est, pourquoi pas l'Europe du Nord.
Ouais,
échanger nos expériences de vignerons. Il y a énormément d'hybrides qui se plantent en Belgique, où ils font ce qu'ils veulent, ils plantent ce qu'ils veulent.
Dans le Jura suisse aussi, c'est assez impressionnant.
En fait, partout dans les zones froides.
Hein. Oui, c'est ça.
Un avantage énorme de ces cépages-là, c'est que tout en ayant, de ces vignes-là, tout en faisant pas mal de sucre, potentiellement, j'ai fait un jus qui fait 15 degrés, hein, en Creuse, une terre très froide, tout en pouvant produire pas mal de sucre, ces vignes, on conservera toujours de l'acidité dans les raisins. Et ça,
oui, il y en a justement. On vient d'ouvrir ta cuvée. Donc cette fois, je ne me tromperai pas. Nous sommes donc sur la cuvée numéro 8. Okay. Pas de blague. Et nous sommes sur du Léon Millot planté en 1911, si je ne dis pas de bêtises, avec un peu de Gamay, de chez Maxime Conchy, vigneron du Beaujolais que tu as ajouté. Et en effet, il y a de la tension. Il y a de la tension dans le blanc précédent, mais il y a aussi de la tension dans ce rouge. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce Léon Millot?
Alors, Léon Millot, il n'a pas été planté en 1911, Alessandra, il a été obtenu en 1911 par Eugène Kuhlmann.
D'accord. Voilà.
C'est un frère ou un cousin du maréchal Foch. On est un peu dans la lignée des cépages d'Oberlin et des cépages dits teinturiers qui avaient été très, très cultivés dans la vallée de la Loire.
Oui.
Là, je ne sais pas, on a des notes, on est vraiment sur les fruits noirs, là, la mûre, oui. La myrtille.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a du terroir là-dedans ou pas?
Est-ce qu'il y a du terroir?
Non. La culture de myrtille y a pas un peu tiré? Non, mais c'est vrai. On dit des fois que on met des pêches de vigne au bord et on va.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que là on peut imaginer ou pas? Alors
c'est très myrtille.
C'est très difficile de répondre. Moi, du coup, je sais pas parce que vous en cultivez, mais je sens que la myrtille, moi.
Ouais, moi, j'ai de la myrtille, du cassis, de la groseille. C'est tellement acidulé et gourmand à la fois.
C'est pas de ma faute. J'y peux rien. C'est pas la myrtille. C'est vraiment la génétique.
Geoffrey, j'ai une question, oui. Parce que t'as mentionné le fait que c'est des cépages qui, justement, s'adaptent à des régions froides. Sauf qu'en fait, on est dans un contexte de réchauffement, et donc demain, malheureusement, mais c'est quand même relativement écrit aujourd'hui, tu vas te retrouver avec un climat peut-être Languedoc, quoi. Quand je dis demain, c'est peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ces cépages, ils seront encore adaptés s'il y a comme ça une montée en température, ou ça va pas coller, en fait?
Il y a plusieurs choses dans la question. Dans les hybrides, comme dans les vitis vinifera classiques, on a des cépages qui ont des dates de maturité décalées, ce qu'on appelle les époques, des premières, secondes, troisièmes époques. Je suis en Creuse, en zone historiquement froide, hein, Alessandra,
oui,
on est d'accord.
Tout à fait.
Donc, je n'ai pas pris le risque de planter des variétés tardives. J'ai planté des variétés précoces. Mmh. La première vendange 2018, je l'ai vendangée au 25 août. C'est-à-dire très très tôt, un truc incroyable. Ouais. Alors qu'est-ce que ça va faire à l'avenir? Je pense que des terres comme les nôtres qui ont des qualités, le no-sol, enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà venu en Creuse, mais on est, pour moi, c'est un Eldorado. On a des terres vierges propres. C'est l'endroit idéal pour faire du bio. On a une climato. C'est beau. La qualité de vie est extraordinaire. On a des eaux d'une grande pureté. On a une faune sauvage incroyable. Bon, alors, c'est peut-être lié au fait qu'on n'est pas très nombreux aussi.
Et c'est ça.
Je pense qu'on est dans une terre, on est dans un futur pays de cocagne où la météo sera plutôt. L'été, il fera chaud. On a des étés où il fait très chaud, mais les nuits sont toujours froides. Ça, c'est l'effet moyenne altitude. On est ici à Boussac, on est à 400 mètres. La question, c'était, est-ce qu'on aura toujours des vins à bas degré avec de l'acidité ? On pourra planter des cépages un peu plus tardifs. On s'adaptera.
En fait, je pense que c'était pas forcément très adroit, mais tu viens de répondre à la question. La raison pour laquelle tu plantes des hybrides, c'est pas parce que t'es en Creuse, c'est parce que t'as envie de t'affranchir d'un certain nombre de problèmes avec des maladies,
des intrants aussi,
des intrants.
Absolument.
Et des maladies. Et c'est pas lié au réchauffement climatique qui te fait choisir cela. Toi, ton terroir, à la limite, il va devenir de plus en plus chaud. A priori, oui. L'écart de température entre le jour et la nuit, ça va perdurer parce que tu as un peu d'altitude, oui. Et puis il y a beaucoup, oui, de vert autour de toi. Donc, oui, le choix de l'hybride n'a pas de rapport avec le réchauffement en réalité.
Le choix de l'hybride, il a un rapport avec mon mode de vie. Et ça, c'est des choix de qualité de vie. Effectivement, non, ton analyse est très très bonne. Le fait de planter de la vigne, effectivement, on ne gèle plus très fort en hiver et on peut... J'ai une collègue qui a planté du vigny. Elle a planté de la roussane et de la marsanne à 30 km de chez moi. Elle fait des vins très, très agréables avec du pur vinifera. Elle vinifie en conventionnel. Elle est peu touchée par les maladies encore, j'espère. Bon, voilà. Non, future terre viticole, oui. Alors, après, le choix des hybrides, oui, c'est un choix de mode de conduite. J'ai planté une vigne large, haute, oui, agréable à travailler. On n'a pas le dos coupé. Cassé en deux.
Oui, c'est rare et c'est joli à voir. En effet, les vignes de Geoffrey, on peut tailler debout. On peut rester debout, ouais, et contempler.
Le cordon, il n'est pas au ras du sol, donc il peut s'affranchir un petit peu des gelées de printemps. Parce que plus l'air froid descend et plus on s'éloigne du sol, on se protège. Bon, voilà. Mais pour moi, c'est... Et alors, vinifier nature avec des cépages hybrides, ça tombe sous le sens.
Le gros avantage du cépage hybride, bon, c'est un peu ce que tu dis, c'est que déjà c'est un peu moins de boulot peut-être dans les vignes, c'est évident. Et voilà, et ça permet effectivement de passer au travers des maladies. Et puis c'est un impact positif par définition sur le sol, puisqu'il n'y a pas de bouillie bourdelaise, il n'y a pas de cuivre, il n'y a pas de soufre, enfin il y a beaucoup moins de traitements, donc c'est naturellement plus éco-friendly.
C'est ça.
Après, moi j'avais juste une question, est-ce que, parce qu'il y a quand même eu pas mal d'épisodes de sécheresse ces dernières années dans la région, est-ce que ça nécessite quand même de l'irrigation ou pas? Je sais que tu as un système d'irrigation parce que les myrtilles ont besoin de beaucoup d'irrigation, mais est-ce que tu as la nécessité à court ou est-ce que tu utilises l'irrigation pour les vignes?
Alors, d'expérience d'arboriculteur, j'ai cultivé des myrtilles pendant 30 ans, et là, les myrtilles, on sait qu'il y a 80% d'eau dans le fruit myrtille, et sans arrosage, on sait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne connais pas de région en France où la myrtille cultivée peut pousser et grossir sans irrigation. Je n'en connais pas. Pour ce qui est de la vigne, si je n'avais pas installé un système d'irrigation, si je n'avais pas arrosé à la main, c'est la même chose. Trois premières années de plantation de ma vigne, elle serait morte. J'ai plein d'exemples autour de moi de gars qui sont partis en pensant que ça allait passer, qui ont même planté dans l'herbe sous des touffes de dactyles, ils se sont fait ramasser les pauvres par l'herbe d'une prairie, ça consomme beaucoup d'eau, surtout quand elle est bien implantée. Un pied de vigne là-dedans, il a trois racines, c'est comme un bébé lâché au milieu d'une avenue, quoi. Si vous le biberonnez pas un peu, au départ, il va sécher.
Et est-ce que tu fonctionnes avec de la récupération d'eau? Comme c'est des choses qui peuvent arriver en Creuse.
Alors, je serais tenté de dire que nous, en Creuse, on est une des têtes du bassin de la Loire, du grand bassin de la Loire. Dans l'agence de bassin Loire-Bretagne, la Creuse, qui est un affluent de la Vienne, est un gros affluent de la Loire. On est en tête de bassin. En ce moment, il pleut beaucoup et toutes nos eaux, elles finissent dans l'estuaire de la Loire. Conserver de l'eau en hiver, au moment où il y en a beaucoup, ça me semble vraiment fondé, comme on l'a toujours fait en Creuse depuis le Moyen-Âge.
Ça a toujours été fait en Creuse, ça, c'est vrai.
Ça a toujours été fait en Creuse pour plusieurs raisons. Abreuver les animaux en été, cultiver du poisson, et pouvoir irriguer des cultures. En Creuse, on a irrigué des prairies. On avait des rigoles sur les... qui suivaient les courbes de niveau. Donc, ce n'est vraiment pas une invention du... Vous savez, l'irrigation, ça date des Égyptiens. Hein. Ce n'est pas un truc qui sort... Enfin, voilà, on n'est pas du tout en posture d'avoir des bassines dans notre pays parce qu'on a, Dieu merci, de l'eau qui tombe du ciel et qu'on peut stocker en hiver parce qu'elle est hyper abondante. Cette eau qu'on stocke, c'est une goutte d'eau dans l'Atlantique. Et moi, je n'ai aucun scrupule à dire que si on stocke de l'eau, on pourra s'en sortir et passer des hivers sereins.
Moi, je pense qu'il y a un peu deux chapelles à casser là, dans la mentalité française. Il y a l'aspect des cépages et des AOC. On respecte le cahier des charges, les cépages. Et puis, il y a la notion d'irrigation. Les Américains, les Australiens, alors pour d'autres raisons, mais ils irriguent assez abondamment. En Argentine aussi, mais en France, il y a aussi pareil. Il y a une espèce de blocage sur l'irrigation des vignes et qui, alors après, c'est pas l'irrigation et doit être parcimonieuse et utilisée que de manière nécessaire, mais je pense qu'il y a aussi un blocage à défaire de ce côté-là en France.
Alors en effet, moi je rebondis sur ce que tu dis, Patrice. Je pense que l'irrigation, ce qui est important, c'est de savoir comment, d'où. Si c'est pour assécher
d'autres
cultures, c'est ce qui peut aussi faire peur. Donc je pense qu'il faut que ce soit non seulement très contrôlé et que ça ne tombe pas dans les mains d'une industrie qui serait au service d'une production, justement, de quelque chose de productiviste qui va user d'eau plus que de besoin. Après, ce sera sûrement un autre sujet que l'irrigation. J'avais une petite question pour Geoffrey, mais pour Romain aussi et Patrice. C'était intéressant le jour de la G. Il y avait le mot était perturbant, c'est-à-dire qu'on discutait de parler de cépage hybride ou parler de cépage résistant. C'est vrai que souvent, j'en parlais notamment avec des élèves, mes élèves, à qui j'ai eu la chance de pouvoir faire goûter tes vins et de parler d'hybridation. Le mot hybride, il y a cette connotation un peu OGM, trafiqué, modifié, avec un peu de choses pas géniales. Alors que le mot résistant, il y a quelque chose d'un peu plus vaillant, où on a l'impression que c'est un peu plus positif. Alors est-ce qu'on parlerait à l'avenir, dans ton association, ou même toi, est-ce que hybride ou résistant, qu'est-ce que vous pensez de ces deux mots ?
C'est intéressant d'avoir l'avis du vigneron. Ouais. Comment tu t'appropries ces deux termes ?
Alors... Quand je présente mes cépages aux gens qui vont acheter mon vin, qui vont le boire, je suis obligé d'employer le mot hybride. Après, on va revenir à Mendel. Mendel, cours de génétique en seconde. Les lois de Mendel, vous vous souvenez ?
Bien sûr.
Non.
La mouche drosophile. Mais si, bien sûr.
La drosophile, voilà, non, vrai, qui ouais. permettait, qui mutait. Et qui... Bon, voilà. Les hybrides, c'est un mot de la langue française, ça n'a rien à voir avec les OGM. L'hybridation, on prend le pollen de Monsieur Machin, de Madame. Et voilà. Ouais,
mais ce que dit Alessandra est vrai. Ce que dit Alessandra est vrai, c'est-à-dire que il y a la réalité du terme et ce qu'il décrit, et il y a ce qu'il évoque dans l'esprit des gens. Et je pense que l'exemple est bon. Hybride, on a l'impression que c'est trafiqué, que c'est moderne, que c'est limite futuriste, résistant, ouais. On est dans le combat, dans quelque chose de beaucoup plus positif. Vous êtes obligé d'en tenir compte, même si vous avez utilisé du latin pour nommer votre association Vitis Batardus Liberata.
Oui.
Mais le choix des mots est important.
Oui, le choix des mots est important. Ça nous a pris une matinée chez Valentin Morel au printemps.
Résistant, non. Tu préfères insister et expliquer hybride que d'adopter résistant.
On a un héritage qui est énorme. C'est celui des obtenteurs qui étaient Monsieur Coudert, de Monsieur Sebel, Monsieur Sève, Monsieur Villard, Monsieur Oberlin, Monsieur Kuhlmann, Monsieur Bacco. Ils étaient hybrideurs. C'était leur métier. Leur métier. Et pourtant, c'est un mot du siècle dernier. Personne, à l'époque, on faisait des... Bon, voilà, après, il y a l'appauvrissement de la langue française, on ne sait pas ce que c'est qu'un hybride aujourd'hui, réapprenons le français.
Okay. Oui, on le confond, on l'amalgame en tout cas.
Voilà, après, les organismes génétiquement modifiés, là, on est dans un nouveau type de technologie. Il faut que les gens se... C'est un peu notre boulot aujourd'hui, c'est de dire qu'on est dans deux univers différents. On est soit dans la reproduction sexuée pour obtenir une nouvelle variété, soit dans la manipulation génétique où on va trimballer des gènes d'une plante à l'autre.
Et qui vont s'appauvrir avec le clonage.
Ouais, le métier d'hybrideur ou d'hybridateur, je ne sais pas comment on dit, mais ça reste un métier de jardinier qui fait des croisements en grande série pour trouver le pépin qui va avoir. Voilà. Alors que le GM, on fait du séquençage ADN et par exemple, on introduit des gènes qui peuvent être des gènes de bactéries, qui peuvent être des gènes d'animaux. Aujourd'hui, on introduit un gène de camélidés, donc de chameaux pour lutter contre le cornouet. Hein, donc, voilà. Donc ça, c'est de l'OGM. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un métier de jardinier en grande série, on va dire ça comme ça, au multiplicateur. C'est un métier de chimiste laborantin pour faire... Ouais. Là, on touche plutôt le côté un peu hubris de l'humanité qui va chercher des croisements qui, là, pour le coup, peuvent nous paraître en dehors des raisonnements éthiques de base. L'hybridateur, ouais, c'est fondamentalement un jardinier qui passe du temps à croiser 50 000 pieds. C'est pour ça que d'ailleurs la plupart des hybrides ont des noms de code. Parce que
55,
parce que c'est le 54e pied du 56e rang et que tous les autres on les a pas utilisés. Mais bon, ça reste juste des plans dans un champ, quoi. Donc voilà, juste pour déconstruire un petit peu effectivement ce qu'on peut mettre sous l'appellation hybride. Et puis rappelons encore une fois que tout ce qu'on boit en vin dit normaux, si on employait des gros mots, c'est des chimères.
Et voilà.
Donc c'est des chimères contre des hybrides. Donc restons dans ces catégories-là.
Alors tu parlais de jardinier, du coup je rebondis sur ce que tu dis Patrice, là on vient de se servir un verre que malheureusement Geoffrey tu ne pourras, quoique peut-être tu pourras le déguster en même temps que nous, on est sur un vigneron jardinier en tout cas, un vigneron qui est passionné de miel et d'arboriculture, que tu connais bien, donc il s'appelle Romain Goutalier, que j'ai pu justement rencontrer aussi à l'association. Donc Romain, il est vigneron à Quincier, en Beaujolais. C'est un ancien professeur de physique-chimie, ouais, qui, si je ne dis pas de bêtises, a produit son premier millésime en 2015. Lui, il est comme toi dans l'idée de zéro intrant. Il est en effet intéressé aussi par l'hybridation. Donc là, on est en train de goûter sa cuvée donc, qui s'appelle 50 kilos de patates que j'ai pu récupérer au vin vivant et je les remercie.
Je pense que c'est le seul à avoir utilisé ce nom pour une cuvée de vin, je pense. 50
voilà.
kilos de patates.
Donc on a bien une majorité de gamay. Ce que me disait Robin, c'est qu'il y avait un pied d'hybride donc, dans son jardin que je ne vous dévoilerai pas. C'est une macération courte de 3 jours en grappe entière et si vous souhaitez en savoir plus, il faudra directement soit débarquer vin vivant à Marcadet ou en parler avec Robin Goutalier, mais on va s'intéresser un petit peu au goût de ce vin avec une jolie robe un peu violacée.
Ouais, on montre le rosé, le rouge là, ou le rouge très clair.
Oui, ouais, un côté un peu bon.
Après, c'est pas translucide, hein, donc je sais pas si, je pense qu'il a pas filtré.
Je pense pas.
C'est pas filtré.
Tu connais ce vin, Geoffrey ?
Non, je connais l'auteur.
Je connais pas ce bouquin, je connais l'auteur. J'aime bien son œuvre.
C'est ça.
Je glisse une petite question sur l'association. Votre ambition, c'est donc de faire accepter un peu plus ces hybrides. C'est quoi ? C'est que l'INAO autorise, tout simplement. Vous avez pas, enfin, vous dites pas dans des rêves. Ces cépages, ils doivent avoir leur place aussi dans les AOC, enfin les AOP, pardon.
Alors,
c'est déjà accepté, on y va par étapes, autorisé.
Alors, déjà, nous sommes en vin de France, nous, avec nos hybrides. De fait. Je ne connais pas grand-chose dans les zones d'appellation, les IGP, etc. Je ne sais pas ce qui est, je ne connais pas les cahiers des charges. Est-ce qu'il y a des hybrides qui sont autorisés dans les zones d'appellation ?
Alors, a priori, pas. A priori, c'est tous des vins de France, à part les derniers hybrides qui ont été autorisés dans certaines appellations, si je ne dis pas de bêtises, le Voltis en Champagne, qui a été...
Le Bacco en Armagnac.
Mais c'est quand même relativement rare.
Le Bacco blanc en Armagnac, c'est historique.
Ce que disait Patrice, oui.
C'est pas nouveau. Je pense que forcément... Mais vous savez, en Bourgogne, il y a toujours eu du Bacco noir, hein. Il y a toujours eu des cépages teinturiers pour ramener soit de l'acidité, soit de la couleur. Soit... Dans les vins de Loire, pareil.
Oui, pareil. Les gamets de Bouze, les gamets de Chaudenay qui amènent pas mal de vivacité, en effet.
Ouais. De toute façon, je pense que les vignerons de ces zones-là, ils ont les mêmes contraintes que partout ailleurs. Ils vont avoir envie de faire évoluer leur cahier des charges par rapport au changement climatique, certes, mais aussi par rapport aux maladies. En plus, je pense que les consommateurs, ils veulent des vins de plus en plus sains.
Sains, oui.
On a évolué là avec, je sais pas si c'est un pied de nez. Hein. Vous avez vu ma liste d'ingrédients sur mes bouteilles ?
Oui, raisin, amour et temps.
Voilà. Ok. c'est une obligation 2023 d'étiquetage des ingrédients dans le vin. Je pense que c'est J'ai cru comprendre que chez les vignerons conventionnels, ça serait matérialisé par un QR code.
Oui, mais oui, c'est temps pour parler.
Ça ne rentrerait pas sur l'étiquette en même temps s'ils devaient tout écrire.
C'est sûr, il y aurait trop de choses.
C'est exactement ça. C'est soit on fait des étiquettes plus grandes pour être transparent vis-à-vis du consommateur, soit on met moins de saloperies dans les vins. Mais le fait de codifier une information, là, je veux dire, on est là justement, on est dans peut-être des métiers de communication, mais nous, vignerons, qui devrions codifier une information, on n'est pas dans de la communication, on est dans de l'opacification de l'information. Je suis scandalisé par cette histoire de QR code.
Alors,
c'est pas le sujet du jour, Alessandra.
Non, mais on en avait déjà parlé
ça me fait du bien de m'énerver en direct.
Mais oui, mais t'as raison, et ça fait du bien de le dire, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ici.
Ouais.
On pourra dire méfiez-vous des QR codes. Ouais. Ça va pas passer comme crème non plus.
C'est ça va pas se faire tout seul comme ça.
Ça va dépendre des consommateurs, parce que c'est validé par la répression des fraudes, par le ministère des Finances, c'est validé par les vignerons conventionnels. Donc, si personne se bouge, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Hein. Ça, on va voir les associations de consommateurs. Et là, vous, les
grands médias.
Oui, les grands médias, mais les gens des métiers du vin, les cavistes, les sommeliers, là, il y a un vrai boulot d'information à faire. Pourquoi est-ce qu'on met un QR code sur des bouteilles? On essaie de les rendre jolies, on va mettre des logos qui ressemblent à rien. Ben, je sais pas, mais moi, le QR code, ça me rappelle un passé un peu sombre.
Eh bien, écoute, Geoffrey, merci pour ce cri du cœur qui occasionnera, je pense, une nouvelle terre à boire. Alors, avant de finir, on va terminer sur ce joli vin friand, plein de fruits, de gourmandise et de vivacité.
Et sans patate.
Et donc,
ouais, on la sent pas.
Merci beaucoup, Geoffrey, de nous avoir aidé à y voir plus clair dans ces cépages hybrides. Donc, c'est un thème, en effet, dont on n'a pas fini de parler et sur lequel on aura sûrement l'occasion de revenir. Bravo pour tes vins. Merci Patrice, merci Romain. On se retrouve très vite pour parler de breuvages un peu plus corsés.
Ouais.
Merci beaucoup Geoffrey. À très bientôt.
Merci Geoffrey.
Merci Geoffrey.
Et vive la Creuse.
Vive la Creuse.
J'en profite pour glisser que je fais un bisou à mon papa qui est né en Creuse aussi.
Alors moi j'embrasse ma maman qui vit en Creuse et mes grands-parents, arrière-grands-parents qui étaient paysans creusois.
Moi je connais une vache qui est en Creuse, mais je ne sais pas si c'est ça.
attention.
Marguerite, salut Marguerite.
Je ne sais pas comment on va finir la soirée parce que là on a commencé vin très nature. Et oui. Là ce qui nous attend pour la suite.
Ça va être plus corsé.
Merci Geoffrey.
Merci Geoffrey.
Merci.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
Nothing in life but you. I never regret the years I'm giving. They're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. Darling, it's raining.